le Proche et le Moyen-Orient. Jusqu'à la fin du XVe siècle, la traversée de la Méditerranée est périlleuse, mais elle ouvre les portes du monde fabuleux des califes et des sultans. À Cordoue brille le sultanat omeyyade, mais c'est à Damas qu'il faut aller contempler la cour élégante du souverain des mille et une nuits, Haroun al-Rachid. 786-809. Les rapports entre l'Occident et le monde musulman sont faits d'échanges économiques, culturels ou d'affrontements au moment des croisades. Et tout ceci pourquoi ? Le seul vrai profit des croisades, c'est l'abricot, aime à dire le grand médiéviste légèrement provocateur Jacques Le Goff. Laissons fondre sur la langue ce fruit délicieux, et que sa douceur délicatement parfumée nous soit un avant-goût des charmes d'un monde inventif en pleine mutation. Avec la révélation de l'islam par le prophète Mahomet, né en 570 et mort en 632, le gouvernement des hommes doit se faire selon les règles établies par la religion. L'un et l'autre se mêlent totalement. Ses successeurs, appelés califes, poursuivent son œuvre. Après une période de lutte entre prétendants, deux dynasties s'affirment. Les Omeyyades, 661-750, et les Abbassides, 750-1258. Elles s'effondrent sous les coups des hordes mongoles, puis des tribus turques. Ces dernières, après la prise de Constantinople en 1453, fondent l'immense empire ottoman du Maghreb al-Arabie, qui dure jusqu'en 1922. Les Omeyyades, 661-750. La dynastie des Omeyyades occupe le trône de 661 à 750 avant d'être renversée par les Abbassides qui déplacent la capitale de Damas à Bagdad. Réfugiés dans le sud de l'Espagne, les Omeyyades créent le califat de Cordoue qui dure jusqu'en 1031. Les souverains multiplient, en dehors de leur palais de Damas, les rendez-vous de chasse. Kousaïr Amra en Jordanie, Roussafa en Syrie, dont l'intérieur est richement orné de stucs, de peintures et de mosaïques. Bâti entre 711 et 715, Kousaïr est réalisé en grès rouge et décoré de fresques très colorées. Mais c'est le palais palestinien de Hirbat al-Majfir qui rend le mieux la somptuosité de l'architecture omeyyade. La résidence elle-même est flanquée d'une cour à arcades, d'un hammam et d'une mosquée. L'intérieur est décoré par une alternance de statues de pierre et de mosaïques. Les Abbassides, 750-1258.
Depuis longtemps, les descendants d'Abbas, pieux oncles de Mahomet, font de l'opposition aux Omeyyades, qui n'appartiennent pas, comme eux, à la secte des Hachémites, et les accusent d'impiété. La révolte contre les Omeyyades commence en 747 et la victoire abbasside n'est totale qu'en 750. L'État est alors organisé à partir de 754 par le calife Al-Mansour qui brise toute tentative de rébellion contre son autorité.
Le saviez-vous, entre légende et réalité. Le 25 octobre 732, à Mousset, entre Tours et Poitiers, les troupes franques du maire du palais Charles Martel arrêtent les Sarrasins menés par le gouverneur d'Espagne Abderrahman, qui contrôle déjà le sud de l'Aquitaine et le Languedoc. Depuis ces régions, les Sarrasins lancent régulièrement des expéditions, pillent tout sur leur passage et repartent. Charles Martel donne un coup d'arrêt à l'une de ces incursions, empêchant les Sarrasins de remonter plus au nord, vers les villes de la Loire. Cette bataille serait sans doute restée inconnue si elle ne concernait le grand-père de Charlemagne. Les chroniqueurs, pour plaire au puissant empereur, exaltent la victoire, qui devient peu à peu un combat de titans où les hordes arabes sont arrêtées définitivement. Il est en réalité plus que probable qu'Abderrahman, s'il avait vaincu à Poitiers, au lieu d'y perdre la vie, aurait comme à l'accoutumée pillé les riches cités de Loire et de Seine avant de s'en retourner, chargé de butin, jouir de la douceur d'Al-Andalus, l'Andalousie.
Cordoue, centre de l'Espagne musulmane, 756-1031. C'est l'Omeyyade Abderrahman qui fonde entre 755 et 759 par la conquête un nouvel État dont il se proclame émir au sud de l'Espagne, dont la capitale est la ville de Cordoue. Vite devenu un grand centre intellectuel, la cité attire penseurs, poètes et artistes et leur offre la plus grande bibliothèque de cette époque qui ne concentre pas moins de 40 000 volumes. Véritable pont entre les cultures de l'Orient et de l'Occident. La grande mosquée, entreprise en 786, n'est achevée qu'au Xe siècle. Elle est entièrement réalisée en briques rouges et en calcaire blanc, dont l'alternance multiplie les dimensions respectables. Le visiteur semble perdu en son centre au milieu de la multitude des colonnes surmontées d'un double étage d'arc en demi-cercle. Le contraste entre le marbre bleu veiné du tronc des colonnes et le rythme blanc et rouge des arcs renforce l'impression grandiose du lieu. C'est vers le milieu du Xe siècle qu'est construit près de Cordoue le palais de Madina az-Zahra, comprenant une mosquée, des jardins, des vignes, les bâtiments du harem, ceints par un rempart.
N'oubliez pas les mille et une nuits. Et l'aube chassant la nuit, Scheherazade dut interrompre son récit. Cela vous rappelle quelque chose ? Aladdin et sa lampe, Ali Baba et les 40 voleurs, Sinbad le marin. Les contes défilent, soulèvent l'imagination. Dessins animés et films reprennent vie. Et grâce à eux, la fille du vizir, la belle et imaginative Scheherazade, échappe chaque matin à la mort. Car le roi Shahriyar, trompé par sa première épouse, s'est juré d'épouser chaque soir une vierge, promise à la décapitation dès le lendemain. Durant mille et une nuits, l'habile Scheherazade tient le sultan en haleine, lui donne un fils. Il finit par renoncer à sa vengeance, mais pas au talent de conteuse de Scheherazade. Hélas, tous les récits futurs nous échappent, une fois passée la mille et unième nuit. La trame des contes est commune. Un prince, un riche marchand est trahi et perd tout. Commencent alors des aventures multiples. Un périple au cours duquel rien ne lui est épargné. Puis le sort cesse subitement de s'acharner, et le jeune homme retrouve l'amour, la gloire, la richesse. Les méchants sont punis et les bons récompensés.
En Égypte, les Fatimides, 969-1171. L'islam fatimide s'étend surtout à partir de la fin du Xe siècle, date de la conquête de l'Égypte. Le Caire devient une nouvelle capitale intellectuelle de l'islam, marquée par un retour à une acception assez stricte de la religion. Elle supplante Bagdad, et les souverains fatimides semblent renouer avec les habitudes de l'antiquité égyptienne en installant leur nécropole royale au sud du pays, à Assouan. Plus marqué que dans l'architecture, le renouveau artistique concerne les arts décoratifs, en particulier le travail du cristal qui orne de nombreux objets. Le textile connaît son essor sous l'influence d'écoles diverses, la plus célèbre étant celle de Tiraz en Iran, atelier de tissus précieux à l'usage de la cour califale. L'écriture koufique devient le motif principal d'ornementation, mais le style animalier demeure très prisé.
Le saviez-vous ? L'éléphant de Charlemagne. Haroun al-Rachid, 766-809, monte sur le trône à l'âge de 20 ans, en 786. Son empire s'étend de l'Irak au Maghreb, couvrant le monde musulman, à l'exception des sultanats indépendants en Espagne. Il comprend donc la ville sainte de Jérusalem. Protecteur, selon la tradition familiale des Pépins, du pape et de l'Église catholique, Charlemagne, en 797, envoie au calife Haroun al-Rachid une ambassade chargée de lui demander de maintenir le libre accès au Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ. Cette démarche s'accompagne d'une autre requête, plus surprenante. Un éléphant pour la ménagerie de Charlemagne. En octobre 801, l'animal arrive finalement au palais d'Aix-la-Chapelle avec l'ambassade du calife, en réponse à celle de Charlemagne. Nommé Aboul Abbas, l'éléphant fait sensation, au point que jusqu'à sa mort en 814, Charlemagne l'emmène partout, surtout lors de ses campagnes militaires.
Les croisades. À l'origine, ce sont des expéditions destinées à libérer Jérusalem et à rendre aux chrétiens le libre accès au tombeau du Christ.
Jusqu'en 1071, Jérusalem est sous l'autorité des califes fatimides d'Égypte et leur attitude tolérante s'accompagne du libre accès au Saint-Sépulcre. Tout change quand la ville tombe aux mains des Turcs seldjoukides. Musulmans rigoristes, ils ferment la ville aux non-musulmans. Le 26 novembre 1095, au Concile de Clermont en France, le pape Urbain II lance un appel à la croisade générale. Le mot d'ordre sera Jérusalem et le symbole des croisés, une croix blanche cousue sur les vêtements. On en compte en tout 9. La première croisade, 1096-1099, est conduite par des seigneurs normands, flamands, italiens et le comte de Toulouse. Jérusalem est prise le 15 juillet 1099 après un siège de 5 semaines. Le royaume franc de Jérusalem, la principauté d'Antioche et le comté d'Édesse sont fondés. La deuxième croisade, 1147-1149, est provoquée par la reprise d'Édesse par l'émir de Mossoul. Six rois et empereurs s'y bousculent, Louis VII, roi de France, Conrad III, empereur d'Allemagne, Michel Comnène, Basileus byzantin, Roger II, roi de Sicile, il n'en résulte rien de concret. Les princes se déchirent vite entre eux et chacun regagne ses états. La troisième croisade, 1189-1192, est due à la reprise de Jérusalem en 1187 par le sultan Saladin. Elle est marquée par l'héroïsme et le malheur. L'empereur d'Allemagne Frédéric Ier Barberousse se noie en juin 1190 et son fils Frédéric de Souabe meurt devant Saint-Jean d'Acre. La ville est reprise par le roi de France, Philippe II Auguste, et le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, en 1191. Saladin autorise les chrétiens à se rendre en pèlerinage à Jérusalem.
N'oubliez pas, un prince modèle. Le sultan Saladin, 1137-1193, correspond en tout point à l'idéal du prince décrit pour les souverains chrétiens, dans les portraits idéalisés appelés « miroirs du prince ». Kurde, excellent général, il succède en 1169 à son oncle comme vizir, principal ministre des califes d'Égypte. Peu après, il met fin au califat fatimide et se proclame sultan en 1171. Fondant la dynastie Ayyoubide. Il règne sur l'Égypte, la Syrie, et s'empare du royaume de Jérusalem en 1187. Mais sa célébrité tient plus à ses vertus propres qu'à ses qualités guerrières. À son adversaire blessé, Richard Cœur de Lion, il envoie son médecin personnel. Quand le roi anglais perd son cheval au cours d'une bataille, Saladin lui en offre 2. Sa mansuétude ne s'adresse pas au seul souverain. Pour venger les musulmans massacrés lors de la prise de Saint-Jean d'Acre, Saladin avait promis d'exterminer les Francs s'il prenait Jérusalem. C'est fait le 2 octobre 1187. Mais Saladin se délie de son propre serment avec l'accord des religieux et rend leur liberté à tous les habitants chrétiens, contre une rançon modique dont les pauvres sont exemptés. Saladin mène une existence ascétique, pratique un islam sunnite exigeant mais tolérant. Même son propre linceul ne lui aurait pas appartenu et aurait été fourni par un proche. Sur sa tombe, à Damas, une épitaphe rend hommage au conquérant et au grand prince ami des hommes. « Seigneur, accorde-lui sa dernière conquête, le paradis. »
La quatrième croisade, 1202-1204, démarre à l'appel du pape Innocent III. Son objectif était l'Égypte, mais Venise, qui fournit les navires, détourne les croisés sur Constantinople. La richesse de la ville provoque une catastrophe, les croisés la pillent alors que les Byzantins sont chrétiens mais orthodoxes et non catholiques. La cinquième croisade, 1217-1221, lancée par Innocent III en 1215, est repris par son successeur Honorius III, mené par un seigneur français, Jean de Brienne, devenu par mariage roi de Jérusalem, elle ne parvient qu'à de maigres résultats. Seule, la ville de Damiette en Égypte est momentanément reprise. La sixième croisade, 1228-1229, est, fait rare, une croisade pacifique. Conduite par l'empereur d'Allemagne Frédéric II, alors violemment opposé à la papauté contre son gré, elle aboutit à un traité. Jérusalem est rendue, puis reprise par les musulmans en 1244. La septième croisade, 1248-1254, est dirigée par le roi de France Louis IX, futur Saint-Louis, contre l'Égypte. L'armée française y est dévastée par la peste, le roi fait prisonnier et rendu en échange d'une rançon colossale. La huitième croisade, en 1270, est de nouveau menée par Louis IX pour prendre Tunis, mais il contracte la peste dont il meurt le 25 août 1270. La neuvième croisade, 1289-1291, est une expédition avortée. Le sultan d'Égypte reprend une à une toutes les places fortes des croisés. Il s'agit de la fin des États chrétiens, bien plus que d'une croisade véritable. De ce fait, traditionnellement, on arrête le nombre des croisades à 8.
Le saviez-vous ? La croisade des enfants. Elle apparaît à peu près au même moment en France et en Allemagne. En France, un jeune berger a une vision lui ordonnant de partir délivrer le tombeau du Christ. Il enrôle ses proches, puis, de ville en ville, réunit des milliers de personnes qui embarquent à Marseille. Il y retrouve de jeunes Allemands, également présents à Gênes. Cette croisade est formée certes de jeunes, mais aussi d'errants, de mendiants et d'aventuriers. Bien peu parviennent à s'embarquer, car en route ils meurent de faim, d'épuisement ou de noyade au passage des fleuves. Ils sont aussi pourchassés car ils n'hésitent pas à massacrer les membres des communautés juives sur leur chemin. Les seigneurs, qui en sont les protecteurs, envoient alors leurs hommes d'armes. Ceux qui échappent à la mort et parviennent en Égypte y sont vendus comme esclaves. L'expression « croisade des enfants » sert surtout aux chroniqueurs et prédicateurs pour attendrir les foules, faire honte aux hommes valides qui n'ont pas encore pris la croix.
L'Empire ottoman. L'Empire ottoman doit son nom à Osman Ier, mort en 1326, fondateur de la dynastie des Osmanlis, dont la prononciation déformée par les Occidentaux a donné naissance à Ottoman. Constitué à partir d'une tribu d'Anatolie, la partie orientale de l'actuelle Turquie, il s'étend à son apogée de l'Europe centrale et orientale jusqu'à la péninsule arabique du nord au sud et du Maghreb à l'Irak actuel d'ouest en est. Sa durée, de 1301 à 1922, soit plus de 10 siècles, est aussi remarquable. Redoutables cavaliers, archers émérites, les Turcs s'emparent peu à peu de l'empire arabe des califes et imposent à tous leur domination. La phase de conquête, 1301-1453. En 1301, Osman Ier se déclare sultan et fonde l'Empire turc. Ses successeurs donnent peu à peu au fil de leur victoire militaire ses contours à un immense territoire, véritable pont entre l'Europe et l'Asie. En voici les grandes dates. 1337, prise de Nicomédie aux Byzantins. 1361, prise d'Andrinople. L'Empire byzantin est réduit à sa capitale, Constantinople, et ses environs immédiats. 1389, bataille de Kosovo-Polje en Serbie, ou bataille du Champ des Merles. Serbie et Albanie passent sous contrôle turc. 1396, les Occidentaux, conduits par l'empereur Sigismond, sont écrasés par les Turcs à la bataille de Nicopolis. 1453, le sultan Mehmed II prend Constantinople. C'est la fin de l'Empire byzantin. La ville, rebaptisée Istanbul, devient la capitale de l'Empire ottoman. L'apogée de l'Empire ottoman, 1453-1683. De la prise de Constantinople en 1453 au dernier siège mis en vain devant Vienne en Autriche en 1683, l'Empire ottoman connaît l'apogée de sa puissance. Puis, sur la fin de la période, les signes avant-coureurs de ce qui sera son irrémédiable déclin. L'époque s'ouvre pourtant sous les lauriers. 1512-1520, conquête de la Syrie, de l'Arabie et de l'Égypte. 1520-1566, règne éclatant de Soliman II le Magnifique ou le Législateur. En 1526, à la bataille de Mohács, il s'empare de la Hongrie.
Désormais, Vienne, capitale de l'Autriche, est le verrou qui protège l'Occident contre les Turcs. En 1534, il conquiert la Perse, actuel Iran. La défaite navale de Lépante. En 1570, les Turcs s'emparent de Chypre et leur flotte contrôle la Méditerranée orientale. Le pape Pie V est à l'origine d'un rassemblement des forces européennes sous la direction de Don Juan d'Autriche, frère du roi d'Espagne Philippe II. L'Espagne, Venise, l'ordre de Malte, le pape unissent leur flotte et écrasent puis anéantissent la flotte ottomane à Lépante le 6 octobre 1571. Le paradoxe est que c'est un acte fondateur de l'Europe alors que la puissance des Turcs n'est que peu entamée. Le contrôle exercé sur les territoires conquis demeure. En revanche, cette défaite navale sonne le glas de l'expansion de l'Empire ottoman. D'une position conquérante, il passe à une attitude défensive, un repli sur les acquis.
Le saviez-vous ? Croissant et viennoiserie. En 1683, après un nouveau siège conclu par un échec, les troupes turques se retirent des environs de Vienne. Les habitants de la capitale autrichienne, pour célébrer leur libération, prennent l'habitude de consommer une pâtisserie nouvelle, le croissant, dont la forme rappelle l'emblème figurant sur les drapeaux ottomans. Une autre source veut que ce soit un honneur spécialement accordé aux boulangers de la ville. Levés dans la nuit pour préparer leur fournée, ils auraient déclenché l'alarme, les troupes turques tentant de profiter de l'obscurité pour donner l'assaut. Dénommé viennoiserie, le croissant arrive en France avec Marie-Antoinette en 1770. La dauphine, devenue reine en 1774, va en fait apprendre la recette aux pâtissiers de la cour. La ville ne tarde pas à l'imiter, snobisme aidant, et le croissant devient vite l'indispensable complément de tout breuvage matinal.
Le repli ottoman. Après l'échec du siège de Vienne en 1683, l'Empire turc se replie sur lui-même et assiste, impuissant, aux prémices de son démembrement, réalisé par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale avec le traité de Sèvres en 1920. En voici les étapes. Après la défaite de Petrovaradin en 1716, l'Autriche s'empare de la Serbie. En 1782, la Russie s'empare de la Crimée. En 1830, la Grèce, après une guerre, proclame son indépendance. La France conquiert l'Algérie. En 1832, le pacha d'Égypte, Mehemet Ali, se proclame indépendant. En 1878, une partie des possessions turques d'Europe centrale est partagée entre l'Autriche et la Russie. En 1897, la Crète passe sous contrôle international. La fin de l'Empire ottoman. Le dernier sultan ottoman, Mehmet VI, règne de 1918 à 1922. En 1914, la sublime porte, autre nom de l'Empire ottoman d'après celui de la porte d'honneur monumentale réservée au grand vizir à Istanbul, s'est engagée dans la Première Guerre mondiale aux côtés des empires centraux, Allemagne et Autriche-Hongrie. La défaite fait éclater l'empire, le traité de Sèvres de 1920 le démembre totalement. La Turquie naît alors avec ses frontières actuelles, mais perd tous ses autres territoires. C'est le moment pour le mouvement révolutionnaire nationaliste dirigé par le général Mustafa Kemal de renverser le dernier sultan. Le 29 octobre 1923, la République est proclamée.
N'oubliez pas, le père des Turcs, Mustafa Kemal. Militaire de carrière, Mustafa Kemal, 1881-1938, joue un rôle décisif dans la victoire turque des Dardanelles, en février 1915, où les flottes françaises et anglaises sont repoussées. Devenu général, il refuse en 1918 l'armistice et convoque des congrès nationaux en Anatolie, exigeant l'indépendance de la Turquie. Le sultan n'exerce plus qu'une autorité nominale, et Mustafa Kemal contrôle vite toute l'Anatolie, l'immense partie est du pays. Il y provoque des élections générales, convoque à leur insu une grande assemblée nationale à Ankara, en 1920, qui le nomme chef du gouvernement. un corps expéditionnaire grec, envoyé contre ses troupes, est battu, et les alliés se résignent. En novembre 1922, le dernier sultan, Mehmet VI, s'enfuit sur un navire de guerre britannique. Le 29 octobre 1923, la République est proclamée et Mustafa Kemal en devient le premier président. Il modernise la Turquie à marche forcée sur le modèle occidental. Calendrier, alphabet latin, séparation de l'Église et de l'État. Il devance même ses modèles. Les femmes turques obtenant en 1934 le droit de vote que les Françaises attendent jusqu'en 1945. Considéré comme le père de la Turquie moderne, Kemal reçoit le titre d'Atatürk, c'est-à-dire père des Turcs. Surnom qui finit par le désigner bien plus que son propre nom.